Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat déconfiné, chaque invité chez soi et nous-mêmes à la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, comment vivre dans une société masquée? Il est rare d'observer un tel retournement en si peu de temps. Il y a 6 mois, très exactement, à un jour près, nous consacrions dans le temps du débat une émission au masque, à la façon de se cacher de la police en particulier et à la vedette qu'a été à l'époque le film Joker. Et bien aujourd'hui, nous allons consacrer une émission à tout autre chose. D'après les historiens et anthropologues, et bien le siècle des Lumières aurait en effet, par souci d'égalité et volonté de combattre la dissimulation, repousser l'usage de ces mêmes masques. Il y a 6 mois encore d'ailleurs, donc les forces de l'ordre et le gouvernement souhaitaient interdire son port dans l'espace public et l'épidémie de coronavirus a changé radicalement la donne. Désormais, il est recommandé, sans être obligatoire, de porter le masque dans la rue ou dans les magasins et il est obligatoire théoriquement de le porter dans les transports en commun comme le métro. Que perd-on à une telle contrainte et que gagne-t-on? C'est la question que nous allons poser à nos 3 invités. Mariam Qureishi, elle est spécialiste de Spinoza, philosophe, dramaturge et metteur en scène. Elle est directrice des Nuits de la Création. Même des Nuits de la Philosophie. Olivier Douville est avec nous, il est psychanalyste, maître de conférences et directeur de la revue Psychologie Clinique. Il est auteur des Figures de l'autre chez Dunod en 2014 et avec nous, quelqu'un qui était avec nous juste avant le confinement, Frédéric Keck, il est anthropologue, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale au CNRS et il est auteur des Sentinelles des pandémies qui sortira le 5 juin aux éditions Zone Sensible. Bonjour à vous Mariam Qureishi, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour à vous Olivier Douville.
Bonjour, merci de me recevoir.
Et bonjour à vous Frédéric Keck, c'est un plaisir de vous revoir, enfin quoi, je ne vous vois pas parce que vous êtes à distance chez vous, mais de revenir après ce moment qui a été un moment particulier pour vous, parce que en tant que spécialiste des questions de pandémie en particulier, en Asie, vous avez été très longuement sollicité par tous les médias pendant ces 2 derniers mois.
Oui, bonjour Emmanuel Laurentin, c'est toujours un plaisir d'être avec vous.
Alors, je vais peut-être commencer justement par votre article que vous avez publié, c'était dans Le Monde il y a quelques semaines, dans lequel vous disiez que cette question de masque serait une révolution si elle était imposée dans la société française. Or, comme vous, je suis sorti aujourd'hui dans notre bonne capitale et j'ai vu beaucoup de gens avec des masques, quasiment tout le monde d'ailleurs. Et donc, je me posais la question de savoir si, effectivement, c'était pour vous une révolution que de voir ces Français masqués alors que ça n'était pas dans la tradition ni républicaine, ni même dans la tradition de ce pays depuis 2 siècles.
Oui, j'ai beaucoup hésité avant de faire un diagnostic sur ce que j'ai appelé effectivement dans Le Monde une révolution dans la civilité, parce que c'est une question très sensible, la question du masque, du voile, de la façon dont on se présente dans l'espace public. Et en fait, je me suis appuyé sur le travail d'un anthropologue britannique qui a étudié l'histoire du masque, donc je serais heureux de vous en faire part. Mm-hmm. Mais effectivement, mon expérience des sociétés chinoises, notamment sur les côtes de Hong Kong, de Taïwan, montre que on s'habitue en fait à porter le masque depuis 20 ans maintenant dans ces sociétés, donc je pense qu'on s'y habituera, mais effectivement la transformation est profonde, je crois qu'elle engage la question même de la modernité hygiénique.
Oui, elle est profonde parce que effectivement, dans ces pays asiatiques qui portent souvent le masque, on a l'impression, lorsqu'on voit des touristes en particulier venir en France pour visiter les hauts lieux du patrimoine, eh bien qu'ils sont souvent masqués, et on en est surpris. Et on disait, ou j'entendais dire, dans notre société, ça n'arrivera jamais. Or, et ça n'arrivait jamais parce que il y avait cette idée que le visage était le lieu politique par excellence, c'était le lieu de la citoyenneté, c'était le lieu justement où on pouvait dire qui on était sans se masquer comme sous l'Ancien Régime.
Oui, alors c'est très frappant que l'Assemblée nationale a voté la loi interdisant le voile, donc le débat sur le foulard islamique en 2004, un an après la crise du SRAS, qui a vu les citoyens de Hong Kong, mais aussi de Taïwan, de Chine, porter massivement le masque en souvenir de ce nouveau virus qui était un coronavirus de chauve-souris, hein, qui a présenté des symptômes assez comparables à celui du Covid-19. Et donc, effectivement, nous avons manqué ce tournant parce que le SRAS n'est pas arrivé en Europe. Et je crois que si nous l'avons manqué, c'est parce que nous avons effectivement une histoire de la civilité, de l'espace public, qui n'est pas la même que celle des sociétés chinoises.
Oui. Olivier Douville,
oui.
Je rappelle que vous êtes psychanalyste, que vous avez écrit Les figures de l'autre. On cite souvent, dès qu'il s'agit de parler de visage, de masque, on cite souvent le philosophe Emmanuel Levinas, et c'est ce que nous avions fait il y a 6 mois dans cette émission consacrée à la façon de se masquer dans l'espace public, et qui était à l'époque considérée comme une manière de se révolter. Aujourd'hui, on voit que ces questions sont débattues d'une autre manière, parce que la crise est passée par là, la crise sanitaire est passé par là. Ce matin, le sociologue David Le Breton, dans Le Monde, écrivait « Le port du masque défigure le lien social ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bon, d'abord, avant de faire des diagnostics, on va dire un peu catastrophiques ou un peu prophétiques, ou même trop prophétiques, attendons de voir. Je crois qu'il y a des confusions à ne pas faire. Par exemple, entre le voile et le masque. Et puis, par exemple, entre masque et masque. Et je m'en explique.
Allez-y.
Le voile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le visage de la femme, pas le visage de l'homme, le visage de la femme ne peut pas être présenté dans un rapport où il y a la bouche, où il y a le sourire, où il y a la reconnaissance. Bon, c'est une mesure qui est extrêmement discriminative, d'aucuns diraient ségrégative, entre les sexes. Nous n'en sommes pas là. D'autre part, la question du masque, ce mot même de masque est en lui-même très compliqué. Il y a le masque qui neutralise. C'est celui que nous sommes obligés de porter.
Absolument.
Et puis il y a le masque qui conditionne un rapport privilégié entre soi et l'autre. C'est le masque de théâtre. Ce n'est pas du tout la même chose. Au demeurant, sans être sinologue, mes étudiants, mes amis chinois, m'expliquent que ce n'est pas le même terme. Nous, on emploie le même terme. Le masque de la Commedia dell'arte, par exemple, ou le masque chirurgical, ça s'appelle masque. Mais dans d'autres sociétés, ce n'est pas le même terme. Alors, le lien social, oui, effectivement, puisque l'idéal démocratique, c'est que nous soyons tous, on va dire, à la même hauteur de vue. Hein, pas la même hauteur en tant que telle, c'est la même hauteur de vue. De même qu'à l'époque de l'apprentissage de la démocratie à Athènes, à part les grands textes, qui sont du reste assez tardifs par rapport à l'invention de la démocratie, je pense au texte de Platon... À côté de ces grands textes, il y avait des petites littératures, moi j'aime beaucoup, littérature de rue, par exemple, qui apprenait pour ceux qui savaient lire, que maintenant on était censé se regarder dans les yeux. L'apprentissage de la démocratie, c'était l'apprentissage de la découverte, sans nulle honte et sans nulle obséquiosité, de la faculté de se regarder en face. Bon. Donc je crois qu'il faut mettre les choses un petit peu à plat, que nous sommes... dans une période où nous aimons trop les emballements prophétiques, et puis n'oublions pas que le masque, c'est dans l'espace social. Une fois qu'on est entre amis, entre soi, etc., on est à visage couvert, bien évidemment.
Oui.
Bien évidemment.
Alors, je vais donner la parole à Myriam Korichi tout de suite. Myriam Korichi, justement, cette question des yeux est une question importante parce que, évidemment, masqué par un masque chirurgical ou tout autre moyen de se masquer le nez et la bouche, il ne reste que les yeux pour parler à celui qui est en face de nous de façon visuelle. Est-ce qu'on est prêt à vivre dans une société qui se regarde dans les yeux ?
On serait tenté de l'espérer, mais je voulais juste revenir avant ça, justement, sur... moi, ce qui me frappe, c'est que c'est la, d'une part, la tension conceptuelle, l'opposition qu'on fait entre le masque et le visage, et l'extrême proximité sémantique, en réalité, entre le masque et le visage. Parce que notre mot de personne désigne à l'origine, en fait, le masque de théâtre. Et c'était une manière de... Donc, personne, c'est parler à travers. Le masque naît du visage, s'oppose au visage, parce que le masque, le visage est lui-même masque. Et effectivement, on dit des yeux qui peuvent être le miroir de l'âme. Effectivement, peut-être que... moi, je me suis fait aussi cette réflexion parce que il serait peut-être allé trop vite d'identifier le masque chirurgical au masque de théâtre. Donc je suis tout à fait d'accord avec cette idée de neutralisation, que le masque de chirurgical neutralise la personnalité des individus. Au moins, elle n'empêche pas la présence physique dans l'espace. Et on pourrait même dire que le masque de théâtre et le masque chirurgical sont en rapport inversé. C'est-à-dire que le masque de théâtre, celui de la comédia, et même celui de d'Anonymous, plus tard repris dans les manifestations et le mouvement des places, couvre au moins le haut du visage et aussi l'entièreté du visage, tandis que le masque chirurgical couvre la partie inférieure. Donc on voit les yeux, et au théâtre, on verrait peut-être plus l'expressivité de la bouche. Et donc, on serait peut-être dans un rapport
différent.
Différent et moins carnavalesque, ça c'est certain, avec le masque chirurgical, et approchant beaucoup plus de la vérité de la situation dans laquelle nous sommes au moment même où nous parlons, c'est-à-dire... de prendre en compte la vulnérabilité dans laquelle nous sommes et les moyens que nous avons à notre disposition pour continuer à occuper l'espace.
Frédéric Keck, sur cette question, la philosophe Claire Marin disait très récemment qu'on pourrait se dire que le masque est bienveillant puisqu'il est là non seulement pour se protéger soi, mais pour protéger les autres. Et qu'au bout du compte, là, on y voit une menace parce que ça nous rappelle effectivement que nous vivons dans des temps d'épidémie. Il y a aussi l'idée que ce masque, il nous protège, il est là pour notre bien d'une certaine façon, Frédéric Keck. Frédéric Keck.
Oui, je voulais revenir sur l'étymologie chinoise comparée à l'étymologie. Oui, vous m'entendez?
Allez-y.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien.
Oui. Je voulais revenir sur l'étymologie chinoise. Effectivement, le terme chinois pour le masque chirurgical, qui a été introduit donc en Chine en 1910 dans des conditions sur lesquelles on reviendra, j'espère, c'est littéralement la couverture pour la bouche, kao, c'est l'organe de la parole. Alors que le masque de théâtre, c'est littéralement la technique pour la face, mian. Et on sait qu'en Chine, garder la face, sauver la face, c'est vraiment un objectif central des relations sociales, puisque la face, c'est l'entièreté du visage. Alors, c'est intéressant cette restriction sur la bouche, parce que ça signifie quand même qu'avec le masque chirurgical, on garde les yeux. Et que les yeux sont, pour les Chinois, une expression justement de la personne. Alors... il y a effectivement aussi cette idée chez les Chinois qui portent des masques chirurgicaux que ça n'est pas du tout une façon de se protéger d'autrui, mais plutôt de protéger autrui des postillons qu'on pourrait envoyer si on se sent malade. Et je crois qu'effectivement le terme masque en français, mais dans les langues latines en général, est trompeur parce que il repose sur l'idée qu'on cache quelque chose. Alors que en chinois, c'est vraiment l'idée d'une technique.
Oui, et c'est aussi, et vous insistez là-dessus, Frédéric Keck, en bon connaisseur de la Chine que vous êtes, c'est aussi l'idée d'une modernité, ce qui n'est pas pensé comme tel chez nous, puisque cette modernité remonte au tout début du XXe siècle, cette invention a été adoptée rapidement en 1910 en Chine par un médecin chinois qui avait été éduqué à Cambridge, que nous-mêmes, nous l'avons apprise, cette modernité, à la toute fin de la Première Guerre mondiale, mais nous l'avons assez rapidement abandonnée, alors qu'en Chine, il y a cet écho, pourrait-on dire, à cette modernité médicale du tout début du XXe siècle.
Oui, effectivement, ce médecin chinois, donc Wu Liante, il a montré que la peste pneumonique ne se transmettait pas si on portait le masque chirurgical. Et il a pu soigner des patients de la peste pneumonique, alors qu'un médecin français qui refusait son diagnostic est mort de la peste en soignant des patients. Et donc ce Wu Liante a pris des photos des masques chirurgicaux dans la Mandchourie où sévissait cette peste, et il a diffusé ces photos avec un tel succès que les médecins, notamment américains, ont recommandé le port du masque pour la grippe espagnole, enfin pandémique, de 1918. Et le grand argument de Wu Liante, c'est que le chinois traditionnel, dont on dit toujours qu'il crache, qu'il est sale, justement devait protéger les autres en portant le masque.
Et d'une certaine façon, Olivier Douville, ce masque tel qu'il est porté aujourd'hui sur toute la planète et maintenant dans notre propre pays, il nous dit aussi qu'il réduit le nombre de combinaisons. C'est ce que dit David Le Breton dans son article du Monde, c'est-à-dire qu'on a, grâce au visage, des multitudes de combinaisons. On peut jouer de son regard, on peut jouer de son sourire, on peut jouer aussi de ses sourcils lorsqu'on s'adresse à quelqu'un en face de soi, et que ces combinaisons serait handicapé, supprimé par la question du masque. Vous dites-vous qu'il y a d'autres possibilités qui sont en jeu, justement parce qu'on pourrait jouer de ce masque comme on joue de notre visage, Olivier Douville?
Oui, alors je crois que David Le Breton nous fait une très belle cartographie de la capacité chromatique, intentionnelle, expressive du visage. Il voit au fond le visage comme... comme je dirais, les touches d'un piano, voilà, et par le masque, nous serions privés. Il a raison, logiquement, il a parfaitement raison, d'un certain nombre de combinatoires. Bon, je vais juste dire une chose extrêmement bête. Quand nous sommes dans la rue, quand nous étions dans la rue, avant le Covid, on se promène, on va faire ses courses, mais combien de gens, parmi ceux que nous croisons, combien de gens regardions-nous? Combien de gens fixions-nous de notre regard? Mmh. Avec combien de gens avions-nous des interactions au niveau du visage? Il y a tout un discours intelligent, très intelligent, que je trouve tout à fait remarquable, n'est-ce pas? Mais qui ferait presque planer l'illusion qu'avant le Covid et qu'avant le masque, les gens, quand ils étaient dehors, ils n'arrivaient pas à se dévisager. Alors, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bon. Alors, ensuite, ce que je peux dire, c'est que, bien sûr, un certain nombre d'expressions vont être...
réduites.
Oui, comme stabilité. Mais, encore une fois, moi, je fais confiance à l'intelligence expressive de l'être humain. C'est-à-dire que quand il a quelque chose à signifier à l'autre, il peut très bien surjouer des dimensions de la main, des dimensions de la posture, des dimensions des yeux, des dimensions des sourcils. Qu'en somme, ce qui n'est plus apparent est peut-être perdu, mais qu'il y aura des tas de capacités de recomposition, de gamme expressive. Donc, je tiendrai en quelque sorte les deux ficelles tirant d'une certaine façon, on l'a eu, et d'une autre, Adia, à la fois dire oui, c'est vrai, des potentiels d'expressivité sont supprimés, mais oui, c'est vrai, d'autres potentiels, pardon, de créativité peuvent être inventés. Ouais. Et ne nous privons pas d'observer cela, au prétexte que certaines ne sont plus en présence.
Myriam Qureshi, d'ailleurs, on peut dire que lorsqu'on se plonge dans un site de vente à distance, on trouve des dizaines de milliers de modèles de masques faits par des créateurs en France, aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, comme si on pouvait arborer ce masque comme un signe aussi de son identité. C'est c'est-à-dire qu'au bout du compte, on ne choisit pas forcément des masques chirurgicaux pour se promener dans la rue ou pour aller dans un magasin. On peut aussi l'adapter à sa propre personnalité, en faire une sorte de porte-drapeau de sa vision du monde.
Oui, la mode n'a pas tardé à s'emparer en effet de ce nouvel accessoire ou de transformer le masque chirurgical en accessoire de mode. Et donc on voit fleurir des couleurs, des toutes sortes de décorations pour pallier justement cette crainte de se voir manquer une part de notre expressivité.
Oui, y compris de faux sourires sur notre masque pour pouvoir justement remplacer.
Faux sourires, c'est l'un des premiers masques créatifs que j'ai vu sur internet d'un artiste qui jouait avec le faux semblant en fait du visage, c'est-à-dire qu'en allant vite on avait l'impression de voir un visage entier et en fait c'était un masque, un leurre. Donc là, on se rapproche plus du carnaval.
Exactement.
Ou de la mascarade. Ce qui est intéressant, je veux dire. C'est-à-dire que là, on a vraiment les deux. On a un spectre très large entre le masque chirurgical, dont la signification peut paraître sinistre, au moins au point de vue de ce que ça signifie. Qu'il y a la maladie qui guette, qui rôde, comme on l'entend à l'envi. Mm-hmm. Et puis de l'autre côté du spectre, cette espèce de force de vie carnavalesque qui prend...
Et qui, dont on espère qu'elle prendra le dessus.
Ouais, qui prend, en tout cas, qui prend tout ce qui est encore vivant pour créer de la vie.
Vous écoutez le temps du débat, comment vivre dans une société masquée, avec Myriam Korichi que vous venez d'entendre, Olivier Douville et Frédéric Keck.
France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Vous écoutez le temps du débat, comment vivre dans une société masquée, avec Myriam Korichi, Olivier Douville et Frédéric Keck. Alors Frédéric Keck, vous avez donc dans cet article que vous avez publié il y a quelques temps fait la comparaison entre société d'ancien régime et société démocratique. Vous avez également évoqué cette question de la modernité telle qu'elle était vue du côté de la Chine ou du côté de nos sociétés européennes, et montrant la différence. Vous pensez aussi, comme Étienne Balibar, que c'est une révolution dans la civilité qui nous attend?
Oui, alors c'est la civilité justement au sens de ce que l'État ne peut pas réguler par la loi, hein, qui est beaucoup plus de l'ordre des mœurs. Hein. C'est Montesquieu qui disait que En termes d'habillement, la loi n'a rien à dire. C'est justement ce que la Révolution française a essayé de réglementer. On parlait donc des masques de carnaval. C'était la possibilité justement de se présenter dans l'espace public avec plusieurs identités. La Révolution française a demandé aux citoyens de se présenter avec une identité fixe, stable, transparente.
En même temps qu'on a inventé les papiers d'identité, d'ailleurs.
Citoyens musulmans.
Exactement.
Donc, sur les photos d'identité, les citoyens musulmans ne devaient pas porter de voile. Et ensuite, on leur a demandé de retirer les voiles dans l'espace public.
Oui, et c'est d'ailleurs ce que dit.
Et donc,
Allez-y.
Et donc, cette définition de la modernité a été imposée en France, mais on voit que avec déjà l'inventivité des citoyennes musulmanes sur le voile et maintenant l'inventivité sur le masque, eh bien, cette pluripersonnalité réapparaît dans l'espace public.
Oui, et c'est d'ailleurs ce qui fait le sel d'un article du Washington Post, signé du correspondant du Washington Post et de beaucoup de journaux de la presse américaine à Paris, qui s'appelle James McCauley, que nous avions reçu il y a quelque temps dans notre studio, qui a publié hier un article justement pour montrer, vu du point de vue américain, bien évidemment, cette contradiction que vous refusez depuis le début de cette émission, Olivier Douville, à savoir, il interroge des musulmanes en France, disant, ben voilà, on va savoir ce que c'est que de se masquer le visage. Certains disent, eh bien, on va voir combien c'est difficile et insupportable de se masquer le visage. Et d'autres disent, eh bien voilà, nous sommes d'accord pour pouvoir nous masquer le visage, y compris pour des questions sanitaires. Mais si nous portons un masque un peu particulier et ou un voile un peu particulier, nous sommes poursuivis par la police, en l'occurrence. Et vous n'êtes pas d'accord avec cette façon de voir de ce correspondant américain, Olivier Douville.
Soyons sérieux.
Je pense qu'il l'est.
Non, mais je veux dire, il ne faut pas entretenir trop de confusion. Le voile sépare les hommes des femmes. Le masque chirurgical, actuellement, ne sépare pas. Bon. Donc, voilà, là, il ne faudra pas me dire le contraire. Donc, moi, je veux bien qu'on passe ou qu'on dévie notre conversation sur un débat sur le voile.
Non, pas du tout, c'est pas du tout mon intention, mais c'est juste.
Je crois que ce n'est pas notre sujet. Alors, en revanche, il y a quelque chose, moi, qui me semble tout à fait important. C'est que, à côté de ces masques qui sont, de plusieurs formes, du reste, il y a les masques chirurgicaux, il y a d'autres formes de masques, on voit apparaître une inventivité. On voit apparaître quelque chose dont j'ai un peu entendu, et je m'en réjouis du reste, dont j'ai un peu entendu parler au cours de cette émission, c'est-à-dire de retrouver de l'érotisme. Le masque comme parure. Alors là-dessus, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que on était dans un imaginaire productif, réhabilité au fond des métiers actuels, mais qui ont la réputation peut-être d'être des vieux métiers. Couturières, des métiers où il y aurait la récupération de vieux draps, de chiffons et autres tissus pour faire des masques. C'est quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que cette hypermodernité s'accompagne également d'une mise en circuit d'une réhabilitation, je dirais, des vieux gestes de fabrication de tissus et de recomposition de tissus. Du reste, j'aimerais savoir si les hommes se sont autant mis à l'ouvrage que les femmes, ce dont je doute un peu, hélas. Bon. Et puis, bien sûr qu'il y a toujours un jeu avec le permis, l'interdit, et plus profondément, en ce qui concerne le visage, avec ce qui doit être apparent, ce qui doit être caché, ce qui doit être rehaussé, ce qui doit être orné. Le visage, dans sa matérialité brute, n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est le visage comme lieu de parure. Les soins capillaires, là, il va y avoir un petit rush. Le maquillage. Et je serais curieux de voir, au fond, comment ? Parce que nous sommes au premier jour, n'oublions pas.
Bien sûr, nous le faisons pour le premier jour.
Restons un peu patients et prudents. Mais je serais curieux de voir comment cet art de la parure, cet érotisme de la parure, au fond, va revenir dans l'invention de certains masques. Parce que si sur le masque une bouche est peinte, eh bien la bouche revient.
Myriam Qureshi, vous êtes d'accord avec ce jeu, justement, vous vous posez peut-être la question de savoir ce qui, et c'est ce que vous disiez il y a un instant, ce qui du masque carnavalesque ou du masque chirurgical risque de l'emporter dans nos sociétés si cette épidémie dure encore un peu longtemps.
Oui, oui, ça demeure une question, c'est-à-dire que ou plutôt une exigence méthodologique, ne pas opposer trop vite deux choses qui sont quand même, qui nous apparaissent quand même très différentes, c'est-à-dire le masque carnavalesque et le masque chirurgical. Et je pense qu'on fait contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire qu'on tente de maquiller. Le caractère sinistre ou de manière minimale inconfortable, parce que je pense que ça, on n'en a pas encore parlé, mais de manière très simple, je pense que c'est une contrainte physique de c'est porter vrai. Un masque, et en plus
surtout quand on a des lunettes.
Exactement, et d'y faire attention, c'est-à-dire de faire attention comment on le met, comment on l'enlève, de ne pas l'en... Donc je pense qu'il faut il ne faut pas aller trop vite en besogne et totalement basculer de l'autre côté en considérant que le masque chirurgical même décoré peut devenir un ornement de surcroît érotique.
Vous émettez des
garderai,
doutes.
J'émets des doutes. En tout cas, si on veut parler d'érotique, moi je dirais que l'érotique se retrouve dans le croisement, dans la rue. C'est-à-dire de pouvoir, grâce à cet instrument ou cette technique, comme disait Frédéric Keck, se retrouver dans l'espace, physiquement. Je veux dire, on sépare souvent beaucoup trop, à mon sens, dans notre culture occidentale, le visage du reste du corps, et ça date pas de Lévinas, c'est présent chez Aristote et Plutarque. Il y a quelque chose, vous parliez de socialité, l'espace constitue notre existence sociale, c'est-à-dire que donc le masque nous permet de rompre avec quelque chose qui a pesé, à beaucoup de monde, d'être assigné à résidence et de ne pas prendre l'espace. Et le masque est un instrument, de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'il est la réponse à un syllogisme pratique, pour être précise. Je pense que ce qui est en jeu, c'est de retrouver le jeu social, de l'espace social qui est constitué de croisements, de cohabitation, de rassemblement, qui est exactement à l'opposé de la distanciation, de l'isolement, du retrait qui nous ont été imposés par cette mesure de confinement et qui en plus moralement a pesé sur nous parce qu'on a appelé ça, et en plus la suite, c'est-à-dire ce qu'on va vivre maintenant, distanciation sociale, alors qu'on aurait beaucoup plus raison de parler de distanciation physique.
Bien sûr. Frédéric, qu'est-ce qu'il y a une sorte d'ironie à voir dans un même pays comme le nôtre, il y a 6 mois très exactement, ce débat portant sur les postes gilets jaunes, tous les manifestants qui se masquaient le visage dans les manifestations pour ne pas être reconnus par la reconnaissance faciale, qui était ce débat très actif de l'automne. Et aujourd'hui, ce débat qui renaît de façon très différente, puisque évidemment l'épidémie est passée par là, donc sur la question de la nécessité de se masquer le visage dans ce même espace public.
Oui, ça va dans le sens des usages ludiques, ironiques, transgressifs, subversifs du masque par rapport à l'injonction étatique. Je suis très frappé de ce point de vue du contraste entre le masque blanc et le masque noir. Le masque blanc, on voit bien que c'est le masque chirurgical qui est un symbole de propreté,
de
respect, d'hygiène, de pureté, alors que le président de la République lui-même a porté, même le premier ministre, des masques noirs. Ça m'a beaucoup interrogé. Et d'ailleurs, je crois que les gilets jaunes portaient des masques noirs. Mmh. Et à Hong Kong, pendant toute l'année passée, où il y a eu beaucoup de manifestations contre le gouvernement soumis à Pékin, les Hongkongais ont porté des masques noirs et ça leur a été beaucoup reproché.
Quel masque de la révolte.
Voilà, et puis je crois que dans le Washington Post, il faisait justement référence au titre de Fanon, hein, Black Skin, White Mask.
Ouais.
Je crois qu'il va falloir effectivement inverser cette donnée, White Skin, Black Mask. Ce sera très, très amusant en tout cas.
Et cela, justement, cette question de masque subversif ou de masque justement sanitaire, Olivier Douville, vous la posez comment, vous qui avez travaillé sur les figures de l'autre, paru chez Duno en 2014?
Bon, alors bien sûr, on parle de deux choses en même temps et c'est formidable parce qu'elles existent en même temps. Il y a le masque comme objet, hein, sur quoi j'avais dit qu'il était intéressant de voir comment il était fabriqué, comment il pouvait être ornementalisé. Et puis il y a le masque comme une pièce du visage dans le dispositif social. Mmh. Alors le dispositif social, c'est un grand mot, comme distanciation. Distanciation sociale, ça. Je trouve qu'on a des mots qui sont tellement lourds.
Oui, c'est vrai.
Ils
nous empêchent de penser.
Ils sont tellement tous marqués du sceau de l'urgence que pour penser le temps qui passe, on est entre le catastrophisme et l'utopie. Il n'y a pas beaucoup de sérénité dans cette émission. Il y en a, je m'en réjouis. Bon, l'usage de notre corps aujourd'hui. Hein, où on peut sortir sans s'autoriser officiellement à sortir. On s'autorise de soi-même. C'est très important, ce moment-là. Ce moment-là, on peut dire, ben, je vais sortir sans avoir à signer un petit papier, etc. Mmh. Bon. Cela fait sans doute qu'on regarde autrement la façon dont les gens se promènent, la façon dont les gens sont là, parce qu'on peut se dire, et c'est ce que je me suis dit, après tout, qu'ils sont pas dans la rue nécessairement parce qu'il y a une contrainte, aller voir le toubib, ou aller faire ses courses, mmh. ou tous les motifs égrenés dans ces papiers qu'on a dû remplir chaque jour. Bon, ça, je trouve ça très important. Donc, aujourd'hui, porter un masque, c'est une contrainte, mais en même temps, c'est aussi une responsabilité. Donc, je porte aussi un masque pour ne pas gêner les autres, pour ne pas les contaminer. Mmh. Et si, à ce moment-là, le masque était signe de lien,
ben oui,
et non pas seulement signe d'opposition,
de distance,
de méfiance, voilà. S'il n'était pas porté par les arguments de la phobie, mais par l'espoir de la solidarité, ça changerait beaucoup de choses.
Oui, Maria...
y compris dans la façon dont on en parle.
Ouais. Myriam Korishi, une personne donc qui ne peut lire que sur les lèvres, a inventé un masque justement pour pouvoir voir la bouche de ceux qui sont en face d'elle-même, pour pouvoir justement continuer à pratiquer la lecture des paroles sur les lèvres de ceux qui sont en face d'elle. Ça fait partie aussi de cette question-là, puisqu'à partir de ce moment-là, on verra simplement non seulement la bouche, mais on verra aussi le sourire potentiel. Est-ce que justement il y a des possibilités, des alternatives, du jeu, puisque vous avez évoqué ce terme même de jeu que l'on peut avoir avec ces masques dans notre société masquée d'aujourd'hui?
Je l'espère. Enfin, ce que j'espère, c'est que ce sera temporaire, et un temporaire assez court, mais nous ne le savons pas. Donc, dans ce contexte d'incertitude très élevé, effectivement, on peut imaginer que tout sera mis à contribution pour annuler la contrainte et que représente le masque, c'est-à-dire d'abord et avant tout, ce qui l'empêche de voir effectivement les lèvres bouger pour une personne qui a besoin de les lire, c'est quand même une contrainte maximum. Enfin, mm-hmm. Donc on peut imaginer que oui, toutes les ressources seront mises à contribution pour comme annuler le masque ou en faire quelque chose d'encore plus soit un accessoire, soit un instrument qui permette de continuer à vivre de manière pas contrainte, enfin, et pas diminuée.
Justement, dans cet ordre-là de la révolte contre les consignes, par exemple, Frédéric Keck, il y a un sociologue qui disait l'autre jour, un anthropologue qui écrivait, Denis Geffray, que eh bien peut-être on pourrait imaginer que les ordalies allaient se multiplier. Les ordalies, cette façon de rendre justice pour savoir si on risque la mort ou pas de la part du ciel, eh bien il dit aujourd'hui on pourrait imaginer des attitudes comme toucher la mort pour se donner de la puissance, de la valeur, du sens à la vie et prendre des risques, comme on a pu prendre des risques au moment du sida, en acceptant justement de prendre le risque d'être contaminé. Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric Keck? Est-ce que vous pensez que la puissance de vie, elle a emporté sur cette ordalie potentielle?
La comparaison entre le masque post-Covid et le préservatif post-SIDA est intéressante parce que, de même que porter un préservatif, c'est en quelque sorte témoigner pour toutes les victimes du SIDA, et se rappeler effectivement de cette perte de l'innocence qu'a été eh bien le renoncement à la liberté sexuelle des années 60-70, eh bien de même, je crois que porter un masque, ce sera témoigner des victimes du Covid et renoncer à cette liberté de circulation, de prendre l'avion, de passer facilement de la Chine au reste du monde, qui a été le privilège peut-être de la génération des années 90.
Merci à vous, Frédéric Keck. Je rappelle que vos Sentinelles des pandémiques étaient annoncées juste avant le confinement, sortiront désormais aux zones sensibles, chez Zones Sensibles, le 5 juin. Merci à vous, Olivier Douville. Vous êtes auteur des Figures de l'autre chez Duno en 2014, psychanalyste et maître de conférences et également directeur de la revue Psychologie Critique. Et puis également, merci à vous Myriam Gorichi, vous êtes philosophe, créatrice des Nuits de la Philosophie, dramaturge et metteur en scène. On aurait pu parler avec vous effectivement de ces questions de mise en scène qui vont être profondément compliquées par cette épidémie. On en parlera demain dans une émission qui sera consacrée dans le temps du débat à la question de la culture. Comment la culture peut-elle se réinventer en temps de Covid ? Avec le ministre de la Culture Franck Riester, avec Denis Gravouille qui dirige la CGT Spectacle et avec Nicolas Dubourg, le président du Syndéac. Ça sera nos trois invités et demain,